Dernier point maintenant, au milieu de ce chaos, j'allais dire, on va voir apparaître un grand personnage que vous pourrez voir sur une illustration sur le panneau numéro 15 tiré de la bibliothèque municipale de Douai, le fameux pape Grégoire VII, dont vous avez peut-être entendu parler, pape qui est notamment à l'origine des fameux chants grégoriens, mais qui a surtout laissé son nom à la réforme grégorienne, qui va donc marquer le XIe siècle. Alors cette réforme est très complexe, hein, mais on peut quand même en retenir quelques points, notamment le fait que le pape essaye de remettre le clergé dans le droit chemin en réaffirmant fortement le célibat, la chasteté, entre autres. Mais Grégoire VII est aussi un personnage très important qui décide de faire en sorte que la papauté soit indépendante par rapport aux autres pouvoirs laïcs, roi, empereur, seigneur, etc. Et qui va tellement bien y réussir que la papauté va devenir en quelque sorte une espèce de monarchie absolue au-dessus de tous les autres pouvoirs. Alors pour cela, il va s'arranger pour notamment récupérer un certain nombre de pouvoirs qui auparavant appartenaient aux rois, aux empereurs, etc. Exemple, le pape Grégoire VII va récupérer le pouvoir de nommer les évêques, pouvoir qui appartenait au roi auparavant. Et puis Grégoire VII va être à l'origine de la création du collège des cardinaux qui dorénavant éliront le pape. Alors bien entendu, ça ne va pas régler les problèmes, hein, puisque même si c'est un collège de cardinaux qui élit le pape, on sait très bien qu'un certain nombre de rois ou d'empereurs vont continuer à se battre parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le choix qui a été fait, qu'ils veulent leur propre pape, ce qui fait qu'on va se retrouver dans des situations parfois assez amusantes où on va se retrouver avec deux ou trois papes en même temps. Et puis enfin, un point très important qui nous intéresse vraiment par rapport au catharisme, Grégoire VII est à l'origine des premières croisades. Alors nous sommes à la fin du XIe siècle, hein, dans les années 1080-1090, et Grégoire VII sera donc à l'idée des premières croisades. Croisades qui vont d'abord partir en Terre Sainte, comme on le voit sur le panneau numéro 3, où on vous a présenté donc une illustration, les étendards du prophète. On part en Terre Sainte, on veut partir à Jérusalem, délivrer le tombeau du Christ. Et puis ensuite, eh bien, cette idée de croisade va faire son chemin pour petit à petit se retourner à l'intérieur même du monde chrétien, non plus contre des infidèles, mais contre les hérétiques, que l'on va commencer à dénoncer et même à persécuter dès le XIe siècle. Alors en effet, suite à la réforme de Grégoire VII, à cette politique religieuse qui se met en place, un certain nombre de personnes qui la plupart du temps sont elles-mêmes issues de l'Église catholique romaine, donc des moines, des chanoines, eh bien décident de se démarquer, de se séparer, de prendre un chemin différent, estimant que Grégoire VII fait fausse route, que la religion ne devrait pas être mêlée au pouvoir et à la politique. Donc ces gens-là décident déjà d'une part d'avoir une vie religieuse modèle, très stricte, très ascétique. Ce sont donc des religieux qui vivent dans la pauvreté, la chasteté, le végétarisme absolu, la prière, etc. et qui vont donc impressionner la population par la qualité de cette vie religieuse. Et puis ces religieux vont même aller un petit peu plus loin puisqu'ils vont aller jusqu'à refuser les sacrements de l'Église tels que le baptême ou le mariage, hein, et donc vraiment se démarquent complètement de l'Église en place. Ces religieux-là donc vont commencer à remporter un certain succès auprès de la population au point qu'ils sont considérés comme étant gênants par l'Église catholique romaine. Ils vont donc être dénoncés dès le XIe siècle, alors on les afflublera de tous les maux, agitateurs populaires, illettrés, agents du diable, etc. Et on va même déjà les persécuter puisque le premier bûcher sera allumé en 1022. On va brûler les chanoines de la cathédrale pour hérésie. Ces premiers hérétiques, donc dénoncés dès le XIe siècle, constituent en quelque sorte des pré-cathares, des proto-cathares, hein, puisque en effet, ils portent en eux déjà une bonne partie des caractéristiques du catharisme. Sauf que, eh bien, ils ne sont pas encore organisés en église comme vont l'être les cathares plus tard, et surtout le mot cathare n'existe pas encore, donc on ne peut pas encore officiellement parler de catharisme. En tout cas,